Bonjour à tous. Tiens, ils sont là, eux. Bon, je vois mon fils au bout de la salle, je ne savais pas qu'il était là. Et ma belle-fille. Ce matin, je lisais, on a un calendrier biblique dans la cuisine. C'est encore une vieille tradition huguenote, sans doute. C'est Proverbe 17, verset 6. En gros, c'est « La couronne des vieillards, ce sont leurs petits-enfants. Et la gloire des fils, c'est leur père. » Je vous assure que c'est vrai. C'est écrit dans ce sens-là. Si, si, je vous assure, je vais vérifier. Proverbe 17, verset 6. « La gloire des fils, ce sont leurs pères. » C'est étonnant, hein ? Souvent dans la Bible, on rencontre des choses comme ça, qui nous semblent irréalistes, irréelles, en dehors de notre monde, en décalage. Peut-être qu'il y a une erreur, on ne sait pas. Ça ne correspond pas à notre vie, peut-être. On est souvent un petit peu choqués comme ça. Je crois qu'on va, dans ce que j'ai prévu de vous dire, on va voir ce genre d'incohérence, un peu. Le bonheur. C'est quoi le bonheur ? Il y en a qui ont des idées sur c'est quoi le bonheur. C'est quand le bonheur, c'est ça ? La chanson. C'est qui les gens heureux ? Il y a eu une autre chanson beaucoup plus ancienne sur ce sujet-là. Votre idée sur le bonheur, c'est quoi, précisément ? Ah, c'est pas facile, hein ? Surtout qu'il y a les choses que peut-être... On aimerait dire qu'au fond de soi, on sait bien ce qu'on recherche, ce qui fait plaisir. Hein ? Et puis, il y a aussi, on sait ce que les autres attendent qu'on dise. Le bonheur, c'est des grands trucs. Pour ceux qui ont fait de la philo, il y a des grands philosophes qui ont traité le sujet. On a même été interrogé au bac, là-dessus. Hein ? Mauvais souvenir ? Bon, c'est pas le jour du bac. Quelques citations. Quand ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites sont en harmonie, le bonheur vous appartient. C'est pas mal. Hein ? Bon, comment le faire, par contre ? Ça, on ne sait pas. Mais c'est... Voilà. Mahatma Gandhi. Le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur. Il ne dépend que de vous-même. C'est un peu le même genre. C'est le Dalai Lama. Plus proche de nous et dans l'espace et dans le temps, si tu veux comprendre le mot bonheur, il faut l'entendre comme récompense et non comme un but. Antoine de Saint-Exupéry. Un peu plus compliqué encore. Là, on rejoint certaines classes de terminale. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède. Et c'est pas la moitié d'un idiot qui a dit ça, c'est saint Augustin. Alors moi, ça me gratte l'esprit, j'arrive pas trop à comprendre. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède. D'accord ? Bon, c'est concept, hein ? Voilà. Un autre que j'aime bien, vous allez voir. Le bonheur est une petite chose que l'on grignote, assis par terre au soleil. Jean Giraudoux. Alors vous, ça serait quoi ? Un petit truc qu'on grignote assis par terre au soleil ? Ah ouais, je vois à peu près ce que tu veux dire. Un peu comme aux noces de Cana, quoi. Pour avoir quelque chose un peu sain. Ouais, moi, ça serait une tranche de saucisson. Voilà. C'est pas comme tout le monde, peut-être. Bon, bretzel, je veux bien, mais à condition qu'il y ait du saucisson, quoi. Bon, c'est quoi le bonheur dans la Bible ? Est-ce que vous avez un peu cherché, des fois ? Ça vous est arrivé ? Alors, dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'auteurs qui en ont parlé, finalement. Par exemple, l'auteur du psaume 4 s'interroge, lui, « Qui nous fera voir le bonheur ?» Bon, d'accord. Les lamentations de Jérémie, qui se lamente, bien sûr. « Je ne sais plus ce qu'est le bonheur. » Ah, il l'avait donc su, mais il ne le sait plus. Job dit « Ma vie est une corvée, le soir n'en finit pas, mes yeux ne verront plus le bonheur. Bon, » c'est un moment où il était au fond du trou. Hein. Après, il en est sorti et il a eu à nouveau toutes sortes de choses. Il y a un texte qui m'a frappé sur ce sujet, et surtout parce que je l'ai relu récemment dans une traduction différente de ce que j'avais l'habitude. J'ai lu dans la Bible en français courant, donc une Bible qui est écrite avec très peu de mots, c'est le psaume 37. Et il me semble, en effet, et d'autant plus en le lisant dans ce texte assez simple, il me semble ouvrir une fenêtre sur le bonheur d'après Dieu. Et puis d'autre part, il résonne avec un autre texte du Nouveau Testament que j'aimerais qu'on lise tout à l'heure. Alors, le psaume 37, je vais n'en lire que quelques extraits. Alors, si vous voulez suivre dans vos Bibles, ça va être un peu complexe, mais voilà. Psaume 37, dans la Bible en français courant, verset 3, « Fais confiance au Seigneur, agis comme il faut, et tu resteras au pays, tu y vivras en paix. » Verset 9, « Ceux qui font le mal seront éliminés, mais ceux qui comptent sur le Seigneur posséderont le pays. » D'ici peu, le méchant aura disparu. Tu as d'un large dédommagement. Tu n'en trouveras plus trace, mais les humbles posséderont le pays et jouiront d'un large dédommagement. Verset 22. Ceux que Dieu bénit posséderont le pays. Ceux qu'il maudit seront éliminés. Verset 27. Si tu fuis le mal et pratiques le bien, tu resteras pour toujours au pays. Car le Seigneur aime qu'on respecte le droit, et il n'abandonne pas ses fidèles. Il garde pour toujours la race des méchants. Il les garde pour toujours, la race des méchants sera éliminée. Les fidèles, verset 29, posséderont le pays, ils y habiteront définitivement. Verset 34, si tu comptes patiemment sur le Seigneur, si tu suis le chemin qu'il te trace, il te fera l'honneur de posséder le pays. Et tu verras les méchants éliminés. Verset 37, enfin. Observe celui qui est honnête, regarde bien celui qui est simple et droit. Tu le constateras, l'avenir d'un tel homme, c'est le bonheur. Si vous avez suivi dans vos différentes versions, vous n'avez pas eu ce texte-là. Bon, tout le long du psaume 37, en fait, si on le lit in extenso, on voit constamment le juste qui est mis en contraste avec le méchant. Le méchant qui aura une fin, qui va être jugé, qui sera retranché, etc. Et le juste qui sera du bon côté, en gros. Hein. Dieu dit au juste en quelque sorte, « Fais confiance en l'Éternel, malgré tes circonstances apparemment contraires, continue ton bonhomme de chemin, paisiblement, humblement, mais dans la pureté de cœur, la droiture, peu importe la réussite du méchant, toi, continue ton chemin, et tu auras un avenir. » Et l'avenir, vous l'avez vu, c'est très largement en relation avec cette expression qu'on trouve 7 fois dans le psaume. Posséder le pays, ou rester dans le pays, ou des choses comme ça. Tu resteras au pays, ceux qui comptent sur le Seigneur posséderont le pays, les humbles posséderont le pays, ceux que Dieu bénit posséderont le pays, tu resteras pour toujours au pays, les fidèles posséderont le pays, il te fera l'honneur de posséder le pays. Dans la Bible en français courant. 7 fois. De quel pays s'agit-il ? À l'époque, pour les destinataires du psaume, évidemment. Vous avez la réponse ? Le pays d'Israël. Pour nous aujourd'hui, si on veut en tirer un enseignement concret pour nous, ça pourrait être quoi ? L'Alsace ? Non ? Oui ? Ah bon ? L'Occitanie préfère. Bon. La France, l'Europe peut-être. Le royaume de Dieu. Le paradis. Voilà. Le méchant, lui, n'a pas d'avenir, mais par contraste, l'Éternel agit pour le juste. Non seulement il ne l'abandonne pas, mais il le soutient, il le tient par la main. Il affermit sa marche et lui assure un avenir sûr, ferme, assuré. Avoir un avenir, nous qui sommes dans un pays et dans un contexte aujourd'hui très favorable, on ne se rend pas trop compte de ça. Mais questionnons nos parents et grands-parents, qui, il y a 75 ans, par exemple, ont vécu la guerre ici, l'occupation, disons. Tant de guerres, tant difficiles. Certains ont eu faim. Mon père a volé parce qu'il avait faim. C'est pas vieux, ça. Nous, on ne se rend pas compte. Certains parmi nous sont d'autres pays ou ont vu d'autres pays où c'est pas comme ici. Ici, on n'a qu'à aller dans un magasin, on tire la carte bleue et tout va bien. Dans d'autres pays, c'est pas ça du tout. Du tout, du tout. L'avenir. Avoir un avenir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc pour nous, ça a moins de sel, ça. Il faut qu'on redonne du sel à ça, l'avenir. D'où la traduction que j'aime bien de la Bible en français courant. L'avenir de l'homme qui se tient près de Dieu, c'est le bonheur. Le royaume des cieux. Mais quelle idée du bonheur avons-nous chacun, nous ? C'est quoi le bonheur ? J'en reviens à cette question. On va aller un petit peu dans le Nouveau Testament. Il y a un fameux texte qui parle du bonheur. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Matthieu 5, dit autrement. Le sermon sur la montagne, les béatitudes. Voilà, béatitude. Béatitude, c'est pas être béat, machin comme ça. Non, c'est, comme le disent les traductions, heureux celui qui, ou bienheureux celui qui. Il est heureux, celui. Et même, paraît-il, qu'en essayant de traduire de très près le texte original, il faudrait dire peut-être aujourd'hui « Oh, heureux celui qui ceci, cela ». C'est comme quelque chose de merveilleux. Alors, on connaît un petit peu ce passage des Béatitudes. Dans le monde aussi, on le connaît. Peut-être pour se moquer. Et je fais un petit détour vers la notion normale ou naturelle du bonheur. Parce que je ne veux pas l'évacuer, finalement. Nous avons tous, au fond de nous-mêmes, une certaine idée du bonheur. Je vais oser même un pastiche des béatitudes. Comme si elles étaient écrites par un de nos contemporains. Un contemporain qui prendrait les béatitudes et les regarderait dans un miroir, le miroir de la réalité, du réalisme, et qui écrirait « Le bonheur selon l'homme ». Voilà, « Le bonheur selon l'homme ». « Heureux ceux qui sont riches, car ils peuvent se payer tout ce qui leur fait envie ». J'ai entendu un jeune garçon dire ça en fait. Si on avait plus d'argent, disait-il à son père, on pourrait se payer tout ce qu'on veut. Ben oui, c'est naturel de penser ça. Heureux ceux qui rient. Ben oui. Car ils ne seront jamais seuls, par exemple. Heureux ceux qui ont un caractère bien trempé, car ils iront loin dans la vie. Ben oui, c'est un peu naturel de penser ça. Non ? Heureux ceux qui profitent de la vie, elle est si courte. On l'entend, ça. C'est naturel de penser ça. Non ? Heureux ceux qui ne se laissent pas marcher sur les pieds, au moins ils font ce qu'ils veulent. Bah, il faut se faire une place au soleil, non ? Heureux les audacieux et les calculateurs, car la chance leur appartient. On dit bien « la chance sourit aux audacieux ». Heureux ceux qui savent se battre. Si tu veux la paix, prépare la guerre. La meilleure défense, c'est l'attaque. On pourrait même le dire dans d'autres langues, je crois. Heureux ceux qui font comme tout le monde, car ils auront plein d'amis avec qui ils pourront bien s'amuser. Ben, c'est normal de penser ça. Bon, je caricature, j'exagère, je sais, mais le but, c'est de un peu déboucher nos neurones, en quelque sorte. Et puis, finalement, est-ce si exagéré que ça ? Si on est vraiment honnête, au fond de soi-même, bah, ça fait pas de mal de se faire du bien, ta, ta, ta. Faites attention à vous, prenez du bon temps. C'est pas des choses qu'on se dit ? Mais oui, prenez plaisir. Oui, oui, oui. Quelle idée du bonheur avons-nous chacun ? Alors, lisons maintenant. Les Béatitude, Matthieu 5, versets 3 à 10, et à nouveau dans cette fameuse version en français courant. « Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. » Ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, vous avez plutôt entendu très souvent, les pauvres en esprit, n'est-ce pas ? Que les gens traduisent « pauvres d'esprit », comme ça, on peut bien rigoler. Non, ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Heureux ceux qu'on persécute parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. Qui sont ces bienheureux ? Qui sont ces heureux, celui qui ? Très surprenant, n'est-ce pas ? On a l'impression que c'est écrit à l'envers. C'est très bizarre. Ça ne nous est pas naturel de penser ça. Pas naturel. Excusez du peu. Ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, je vais tout lire comme ça. Ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, ceux qui pleurent, ceux que l'on persécute, pas très brillant, ça fait pas envie, ça. C'est là quel bonheur, vraiment ? D'où ça sort, ça ? Ceux qui sont doux, ceux qui vivent, ceux qui veulent vivre comme Dieu le demande, bon encore, celui-là, bon. Ceux qui ont de la compassion, qui ont le cœur pur, qui créent la paix autour d'eux, c'est eux qui ont le bonheur. Vous êtes d'accord avec moi ? Ça n'a pas l'air très excitant ni palpitant. Est-ce que c'est bien ça ? Pour y arriver, la tâche paraît rude. Je suis certain que ce n'est pas une partie de plaisir, justement. Alors comment Jésus peut-il dire que ces gens-là sont heureux ? Honnêtement, rationnellement, qu'est-ce qui va se passer ? Le monde va dire quoi, va faire quoi avec ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes ? Indifférence, mépris, au mieux. Ceux qui pleurent, difficile de consoler des gens qui pleurent, difficile d'approcher des gens qui pleurent. De manière naturelle, on va peut-être plutôt les fuir. Ceux qui sont doux, D-O-U-X, hein, on les voit pas, on les ignore. Voire on les écrase, mais on ne s'en rend pas compte. Comment peuvent-ils être heureux ? Ceux qui veulent vivre comme Dieu le demande, c'est bizarre ça. Ceux qui veulent vivre comme Dieu le demande, c'est des extraterrestres. Ah non, c'est une secte. C'est une secte, fuyons-les. Ceux qui ont de la compassion pour autrui, compassion, alors notre ami du fond dirait « qu'est-ce à quoi ?» Mes ancêtres Berrichon diraient quoi donc c'est que ça ? Et ceux qui ont le cœur pur, ceux qui ont le cœur pur, c'est pas une valeur aujourd'hui, ça, avoir le cœur pur. C'est une antivaleur. Ben, on les ignore, ou encore on les considère avec un peu de commisération, pas forcément du mépris, quoique de la pitié. Ceux qui ont des sentiments délicats sont des faibles, en fait. Ceux qui créent la paix autour d'eux, alors on leur décerne parfois le prix Nobel de la paix, mais après les avoir emprisonnés, comme Nelson Mandela, ou bien après on les assassine aussi, Anwar El Sadat, Martin Luther King. La plupart du temps, ceux qui procurent la paix, on les ignore et on les oublie. Dans mon église d'origine, à Lyon, il y avait un frère, il était alsacien, avec un fort accent comme vos grands-parents. Mon père disait que c'était un puissant ouvrier de paix. J'ai rien compris quand il m'a dit ça, mon père. J'étais petit. Plus tard, j'ai compris. La paix, même dans une église, c'est une affaire compliquée. Le Seigneur fasse qu'il y ait parmi nous des ouvriers de paix. Et ceux qui agissent comme Dieu le demande, souvent, on ne les comprend pas. Ce sont des extrémistes radicalisés, non ? On dirait ça aujourd'hui. Les extrémistes radicalisés. Une certaine laïcité voudrait d'ailleurs ne plus entendre parler publiquement de religion, hein, c'est pour la sphère privée. ce que Jésus en dit est tout le contraire. Tout le contraire. La récompense est promise. La clé du bonheur, elle est là. Elle réside, en fait, dans ce que Jésus dit de ce qu'auront ces gens. Et ça ressemble énormément au psaume 37. Ça résonne. Il y a un avenir et une récompense pour ces gens-là. Dans le psaume 37, la récompense promise est la possession du pays. C'est quelque chose de très concret. C'est le pays d'Israël. Ici, en Matthieu 5, la première récompense au verset 3. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Voilà. C'est le royaume des cieux. La dernière récompense, le dernier verset, c'est le verset 10, qu'on a lu, « Heureux ceux qu'on persécute parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. » Tous ces versets sont encadrés par cette promesse, le royaume des cieux. Ça, c'est un avenir. Un royaume est au ciel. Pour autant, les autres récompenses entre les deux, les autres bienfaits, sont loin d'être négligeables ou insignifiants. La liste, si on les lit comme ça, directement, « Être consolé par Dieu, voir ses désirs exaucés par Dieu, être au bénéfice de la compassion de Dieu, voir Dieu, être appelé fils de Dieu, par Dieu lui-même. Les bienheureux sont donc dans une grande proximité de Dieu. Alors, on pourrait presque dire, mais Dieu est au petit soin pour eux. C'est ça que ça fait. Vous imaginez ça, et à la fin, le royaume des cieux, comme dit cette interprétation que fait la Bible en français courant du Psaume 37, c'est le bonheur. C'est le bonheur. En conclusion, j'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Je vois que la fatigue est là. Pour ce qui concerne le bonheur, tout dépend de la direction de mon regard. Qu'est-ce que je regarde, en fait? Si je regarde vers les plaisirs que procure l'assouvissement de mes désirs, ce qui me fait plaisir, c'est de faire face à mes désirs. Mes plaisirs immédiats, mes plaisirs pour la terre, sont souvent fugaces et fugitifs. Bon, il faut quelques années pour finalement faire l'expérience, parfois amère. Et c'est plutôt vers le bas que je regarde. C'est vers mes pieds, voire vers mon nombril que je regarde. Et je cours tout le temps, jamais vraiment satisfait. Plus j'en ai, moins j'ai de plaisir, souvent. Donc soit je regarde vers le bas, soit je regarde vers le haut. Vers la fin, la finalité, le but, vers la rémunération à venir. C'est là que sont mes vrais biens. Mon véritable ami, Jésus, mon héritage et mon trésor, c'est le royaume de Dieu. Alors, suis-je défi pour moi maintenant, pour chacun de nous? Suis-je résolument engagé dans le chemin des gens au cœur pur, des gens qui parfois pleurent, des gens qui ont de la compassion pour autrui, des gens qui ont conscience de leur peu de moyens, des gens qui créent la paix autour d'eux, des gens qui veulent vivre comme Dieu le demande, ce sont eux les gens heureux. Que le Seigneur nous aide, nous chrétiens, à nous engager franchement, complètement et sans retenue pour lui. Que les choses d'en haut prennent de plus en plus d'importance dans notre vie, que nous cherchions à lui plaire à fond, dans le détail, puisque nous sommes au bénéfice de ce bonheur-là, le bonheur éternel, excusez du peu, le royaume des cieux. Amen.